Féerie bourgeoise, chapitre 11. À présent, comment vont-ils vivre ? Dit Bernard au bout d'un instant. À partir de cette minute, ce fut pour lui la grosse question. Maintenant qu'il avait sondé les sentiments de Louise et qu'il était à peu près sûr de son indulgence pour Claire, il était plus tranquille et se disait « À quoi bon récriminer ? Je ne changerai rien à rien, et ce n'est pas ma malédiction plus ou moins solennelle qui arrangera les choses. » Le bien-être matériel de son enfant restait sa grande préoccupation. Ce n'était pas pour lui un devoir solennellement exprimé. Le sentiment du devoir, chez lui, était toujours inconscient, instinctif, et d'autant plus impérieux. Il ne pouvait souffrir l'idée de la gêne chez des êtres qui dépendaient de lui. Même s'il eût estimé que la fugue de Claire le dégageait de ses devoirs paternels, il n'était pas débarrassé pour cela de sa sollicitude. Ce qui l'inquiétait, c'était de ne pas sentir sa fille sous une tutelle assez sérieuse. Le vicomte de Bérin était d'une noble famille. Bernard ne le considérait que comme un panier percé, orné d'armoiries. Les jeunes gens qui achetaient des bijoux très chers à Bernard Lunéville et qui les lui revendaient le jour même avec un rabais par l'intermédiaire d'un homme de paille, certes, ces fils de famille n'avaient pas beaucoup de respect pour le négociant qui acceptait cette combinaison. Mais il avait pour eux une mésestime encore plus forte, qui n'était pas loin du mépris. Il savait que Georges jouissait d'une rente de 30 000 francs, mais il pensait bien que cette rente avait été engagée quand Georges s'était acquitté vis-à-vis de lui. D'autre part, si, comme il avait lieu de l'espérer, le vicomte ne donnait aucune suite au projet de mariage que ses parents avaient conçu pour lui, il allait se trouver en très mauvais termes avec sa famille. Quelles seraient alors ses ressources? Une seule personne pouvait lui donner des renseignements là-dessus. Renaud. Il se promit bien d'aller voir l'homme de lettres, qui ne devait pas avoir quitté Monte-Carlo. C'est pourquoi, lorsque Louise lui demanda « Est-ce que nous allons rester dans le pays ?» il lui répondit, sans la mettre au courant de l'enquête projetée, « Oui, j'ai encore affaire à Monte-Carlo. » Leur dîner était terminé. Ils rentrèrent tout doucement à pied à l'hôtel. Bernard disait à sa belle-sœur « Je ne suis pas pressé d'aller me coucher. Je dormirai bien mal. Autant dire pas du tout. » En fermant la porte de la chambre de Claire, il fut un peu impressionné, parce que la femme de chambre avait préparé, comme tous les soirs, le lit de la jeune fille et disposé la chemise de nuit sur la couverture. Elle avait dû désespérément chercher les petites pantoufles que Claire avait emportées dans sa valise. Bernard se mit au lit. Il était fatigué, mais persuadé qu'il ne dormirait pas. Cette histoire allait lui trotter par la tête toute la nuit. Ah, l'insomnie ! Quel supplice que l'insomnie ! Et c'est en répétant « Insomnie, insomnie » qu'il s'endormit du sommeil le plus paisible, que nul rêve ne troubla, car le petit dîner fin avait bien passé. Chapitre 12. Le lendemain matin, il s'éveilla vers 8 heures et ne retrouva qu'après un instant son grave souci de la veille. Dans la première minute, il lui sembla plus grave encore. Puis il l'envisagea avec plus de calme. Il se souvint qu'il devait aller l'après-midi à Monte-Carlo pour mettre la main, si possible, sur Renaud de Sérisier. Il emmènerait Louise, qui avait été là-bas la veille, et qu'il ne refuserait pas de retourner dans cette ville attirante, avec l'arrière-pensée de faire une petite visite à la roulette. Mais on ne s'en irait qu'après déjeuner. Ils avaient tout le temps. Bernard put rester encore une bonne heure au lit, maintenant qu'il n'avait plus la préoccupation d'aller scruter les journaux dans le hall de l'hôtel. Demeurerait-il encore longtemps sur la Côte d'Azur, ou rentrerait-il à Paris? Il était un peu effrayé de revenir, sans la petite, dans son appartement de la rue Réaumur. D'autre part, traîner dans cette ville de fête n'était guère de son goût. Il connaissait Louise. Elle aussi en aurait vite assez. Enfin, l'on verrait tout cela d'après les renseignements que donnerait Renaud. Ils revinrent donc à Monte-Carlo. Bernard accompagna Louise au casino et demanda 2 cartes d'entrée. Louise n'était jamais allée dans la salle de jeu, et son impatience de la connaître était mélangée d'une certaine terreur. Bernard la fit donc pénétrer dans le vaste et hospitalier sanctuaire. Il la laissa près d'une table et se dit qu'avant d'aller chercher Renaud dans les hôtels, il ne risquait rien de jeter un coup d'œil autour de ses tables et qu'il avait des chances sérieuses de rencontrer l'écrivain. Il ne savait pas que Renaud jouait de préférence aux 30 et 40 et qu'il s'en allait dans les salles du fond, qui ne sont pas ouvertes à tout le monde. Aussi ses recherches furent-elles infructueuses. Il repassa au bout de 10 minutes auprès de la table où il avait laissé sa belle-sœur. Elle s'était adaptée très vite à ce nouveau milieu, avait pu s'emparer d'une place assise et annonça triomphalement à Bernard qu'elle avait déjà gagné 80 francs. Il eut aussitôt l'impression que cette somme n'était pas définitivement en sa possession et pensa également que Louise ne serait pas disposée à rentrer à Paris tout de suite. Un employé donna à Lunéville les indications nécessaires pour obtenir une carte d'accès aux salles privées. La première personne que Bernard aperçut une fois là-bas, ce fut un Renaud de Sérisier, à demi étendu sur une banquette et qui ne manifestait aucune allégresse. Bernard était décidé à apprendre à Renaud ce qui s'était passé. Il s'était arrêté, au cours de ses réflexions, en chemin de fer, à cette formule qui lui paraissait excellente. « Monsieur Renaud, nous avons un fait nouveau. » Il prononçait « fait nouveau ». Cet homme excellent, qui était capable d'attitudes assez dignes dans les circonstances graves, quand il était soutenu par la douleur et l'indignation, avait à certains autres moments des façons de parler un peu prétentieuses et une tendance à se servir trop fréquemment de termes qui lui paraissaient distingués, surtout quand le sens lui en avait été révélé depuis peu de temps. Mais il n'y avait guère, pour le moment, à se préoccuper du ton qu'il convenait d'adopter avec Renaud. Celui-ci, tout à la pensée de désastres récents, tendit à Bernard une main languissante, sans lui dire bonjour ni lui demander des nouvelles de sa santé. Puis, il eut un hochement de tête désabusé, qui en disait long. « Vous êtes un homme intelligent, monsieur Lunéville. Expliquez-moi pourquoi je reviens toujours dans cet endroit où j'ai la certitude et la conviction que je ne gagnerai jamais. Si je gardais un espoir, même absurde, d'y faire fortune, j'aurais une petite excuse. Mais je sais que je suis condamné d'avance, et je m'approche de cette table comme du poteau d'exécution. » Il oubliait que 2 heures auparavant, il ne se tenait pas d'impatience d'arriver au jeu, et qu'il avait le pressentiment de gagner ce jour-là. Un pressentiment qui ne trompe jamais. « Alors, vous êtes complètement à sec, » dit Bernard, qui ne put s'empêcher de sourire, et qui, quelques mois plus tôt, se serait écarté comme de la peste de cet homme besogneux. « Si je n'étais pas fauché, » dit Renaud, « vous ne me verriez pas sur cette banquette, mais à une excellente place que j'avais là-bas autour de cette table. Je dis « excellente », au seul point de vue du confort. C'était de la folie, d'ailleurs, de m'y asseoir, car c'était la première à droite de la taille, et depuis 30 ans, je n'ai jamais gagné à cette place-là. « Si je ne craignais pas de vous rendre un mauvais service, » dit Bernard. Mais il ne dit rien davantage, et c'est Renaud qui demanda, la voix tremblante d'espoir, après un moment de silence. « Que feriez-vous, mon bon monsieur Lunéville ?»« Eh bien, je vous proposerai 1000 ou 2000 francs. »« Monsieur Lunéville, vos conditions seront les miennes. »« Je ne vous ferai aucune condition. Je vous les prêterai pour le temps que vous voudrez, avec des intérêts normaux. Alors, je crains que ce ne soit un peu cher.
« Monsieur Renaud, dit Bernard avec gravité, vous ne me connaissez pas. Vous avez apprécié d'une façon un peu sévère et, je crois, injuste des opérations commerciales que j'entreprends quelquefois. Mais je ne veux pas que vous me preniez pour un imbécile. Croyez-vous que je m'imagine qu'on peut acheter, même avec une somme plus forte encore, un homme comme vous? Le service que je vous rendrai ne vous liera en aucune façon. Si j'ai jamais un service à vous demander en retour, vous serez absolument libre de me le refuser. Mais il se trouve que ces temps-ci, j'aurai à vous parler assez souvent, je pense, et il me serait désagréable de vous sentir dans la gêne. D'abord, si vous êtes occupé, vous ne m'écouterez pas. »
Renaud resta un instant sans rien dire. Il ne comprenait pas très bien ce Lunéville.
« Monsieur Lunéville, puisque vous êtes en bonne disposition, vous allez d'abord me payer à boire. Je n'ai plus que 500 francs que j'ai mis à l'abri à la caisse de l'hôtel. Je me suis dit, en entrant ici, je ne perdrai que ce que j'ai sur moi. J'ai perdu, en effet, ce que j'avais sur moi, mais je l'ai bien perdu, et je n'avais pas un sou de petite monnaie. Allons nous abreuver, si vous le voulez bien, dans ces salons latéraux d'où l'on aperçoit à peine les tables de 30 et 40. » Ils gagnèrent une des tables du café. Renaud commanda une orangeade champagne et Bernard un quart Vichy.
« Maintenant, je vous écoute, » dit Renaud.
« Monsieur de Sérisier, il y a depuis hier un fait nouveau. »
Il y tenait à son fait nouveau.
« Votre ami Georges, » continua-t-il, « a enlevé ma fille. »
« Ah, diable !»
« Je ne savais pas si vous étiez au courant.
Je ne savais même pas qu'il était de retour. »«
Bon, mais je pense qu'il va vous écrire. »«
Oh, sûrement. Il a dû m'écrire à Paris et la lettre me reviendra ici. »« À moins qu'il n'ait passé chez moi à Paris et qu'on ne lui ait donné mon adresse de Monte-Carlo. »«
Vous avez peut-être quelque chose à l'hôtel. »«
Je vais voir, monsieur Lunéville. Venez avec moi si vous voulez. » Mais si je reçois quelque chose de lui et qu'il me donne son adresse, bien entendu, je ne me reconnais pas le droit de vous la révéler.
Oui, dit Bernard. Après tout, je ne vous demanderai pas de me dire où ils sont. Si vous le savez, ça me suffira.
Garçon, voici pour les consommations.
Allons à votre hôtel, monsieur Renaud. Je vous attendrai devant. Je n'entrerai pas avec vous.
« Voulez-vous maintenant ce que je vous ai proposé? 1000 ou 2000 ?»«
Si c'est mon avis que vous me demandez, 2000 me serait plus sympathique, mais je n'ai pas de papier timbré pour vous signer un billet. »«
Je n'ai pas besoin de billet. »«
Je préférerais. »«
Je vois, dit Bernard en souriant. Vous n'avez pas confiance en moi. »«
Vous avez de l'esprit, monsieur Lunéville. »
« Oh, bien rarement, monsieur Renaud !»
Il s'était dirigé vers la sortie. En passant dans la grande salle, Bernard vit de loin Louise, toujours assise à sa place. Elle avait déjà l'air moins triomphant.
« Voyez-vous, dit Bernard à Renaud sur le chemin de l'hôtel, quand j'ai appris ce qui est arrivé, j'ai d'abord fait comme tout le monde, j'ai traité mon enfant de fille dénaturée. Depuis hier, je me suis dit que c'était inutile de récriminer, puisqu'elle ne m'entendait pas, et que je n'avais maintenant qu'un souhait à former, c'est que cette mauvaise aventure tourne le moins mal possible. J'espère que votre ami n'est pas un méchant garçon, et qu'il comprendra le devoir qu'il a vis-à-vis de Claire. S'il l'aime vraiment beaucoup, il ne le comprendra que mieux. Et pour qu'il l'aime beaucoup, je connais un peu la vie. Il faut qu'il n'ait pas trop d'ennuis. Voilà à quoi il importe que je songe. Que j'y songe en m'en occupant. Je ne sais pas encore exactement comment il faudra que je procède, mais c'est de tout cela que j'aurai à vous parler. À l'occasion.
Chapitre 13. Renaud se demandait toujours ce que c'était, en fin de compte, que ce Bernard Lunéville. Il aurait voulu conclure que c'était un brave homme, mais il n'osait pas adopter cette conclusion, car il craignait que son jugement ne fût influencé par cette offre spontanée de 2000 francs. Si bien que cette complaisance l'influença en sens contraire et lui inspira de la méfiance à l'endroit de Bernard. Il se demandait « Pourquoi m'a-t-il offert cet argent ?» Et il n'avait pas la conscience tranquille. Bernard, selon ce qu'il avait proposé lui-même, resta devant l'hôtel pendant que Renaud y pénétrait. Il attendit quelques minutes. Renaud tardait un peu. Enfin, l'homme de lettres sortit de l'hôtel, mais il n'avait pas de papier à la main. « C'est qu'il n'y a rien, » pensa Bernard. Il se trompait. Renaud avait reçu une dépêche qu'il avait dû lire et relire avant de la mettre dans sa poche. « Je sais où ils sont. Ils ne me font aucune recommandation de discrétion. Mais il est évident que s'ils avaient su que je vous rencontrerais, ils ne m'auraient même pas demandé de ne pas vous révéler leur adresse, tellement cela va de soi. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'ils sont sur la côte et qu'ils me demandent d'aller les voir demain. « Bien, » dit Bernard, « bien. » Il était ému à l'idée d'avoir de leurs nouvelles. Il se sentait de l'attachement pour ce Renaud qui allait les voir, qui servirait de liaison entre lui et sa fille. Il pensait aussi que l'écrivain, maintenant qu'il avait entre les mains les 2 billets de 1000, n'avait qu'une idée, retourner au casino. « Vous songez aux 30 et 40, monsieur Renaud ?»« Oh, vous savez, je n'ai pas grand-chose à faire dans ce pays. Il faut que je justifie ma raison d'être ici. » « Je compte rester à Monte-Carlo jusqu'à la fin de la soirée. Voulez-vous me faire l'amabilité de rester à dîner avec ma belle-sœur et moi ? Seulement, je vous demanderai de choisir le restaurant, car vous connaissez le pays mieux que moi. »« J'étais vaguement invité, » dit Renaud, « mais je veux bien. » Il ne tenait pas, lui non plus, à se séparer de cet homme puissant. Providence ou diable, que le hasard avait mis sur son chemin. « Eh bien, nous allons aller voir où en sont les affaires de ma belle-sœur, et puis nous la préviendrons que nous dînerons ensemble. » Ils trouvèrent Louise dans le vestibule, assise sur une banquette, à côté de quelques personnes inconnues, à qui la chance non plus n'avait pas souri. En apercevant son beau-frère, elle fit une moue et prit un air de consternation un peu exagéré pour qu'il s'attendît à une perte plus grande. « 500 ?» demanda Bernard. « Oh non » fit-elle, « je n'avais que 200 francs sur moi. » C'était d'ailleurs inexact. Elle avait emporté 300 francs, sur lesquels il ne lui restait plus qu'un jeton de 5 francs qu'elle tenait étroitement serré dans sa petite main maigre. « Tu veux rentrer là-dedans ?» demanda Bernard. « Il faut que tu me prêtes de l'argent. » Renaud, qui s'était approché, entendit cette phrase et ne put s'empêcher de rire. Décidément, il n'était pas le seul client de Bernard. Il présenta ses respects à Louise, qu'il avait vue plusieurs fois rurer au mur. « Tu joueras ce soir après dîner. Oui, nous dînons à Monte-Carlo avec Monsieur de Sérisier. Pour le moment, tu vas venir faire un petit tour avec moi sur la terrasse. Ça te fera prendre l'air et ça changera la veine. » Ils prirent rendez-vous dans un restaurant où Renaud devait retenir une table. L'écrivain rentra dans la salle de jeu. Bernard emmena Louise et la mit au courant de ce qui s'était passé. Ils se retrouvèrent tous les trois à l'heure indiquée. Renaud, avec une prudence soudaine de capitaliste, n'avait pas joué. Il s'était promené autour des tables. Il avait rencontré dans une salle un de ses confrères de Paris, qui ne l'intéressait pas d'ordinaire, mais dont la conversation, ce jour-là, lui avait paru un dérivatif économique. Pendant la première partie du repas, il fut surtout question de la roulette. Louise, qui avait joué ce jour-là pour la première fois de sa vie, déclara qu'elle comprenait maintenant admirablement le jeu, qu'elle était sûre de se défendre et presque certaine de gagner. « Mademoiselle, Vous me faites froid dans le dos, dit Renaud. Vous ne croyez pas que l'on puisse gagner à la roulette? Dit Louise.
J'y joue à peu près tous les ans une vingtaine de jours depuis 30 ans.
Maintenant je le crois encore, mais quand j'entends une autre personne m'affirmer sa foi, je considère cela comme une folie.
Rien, cependant, ne pouvait diminuer chez Louise sa confiance absolue.
Et Bernard, sans enthousiasme, dut sortir de sa poche le billet de 500 francs qu'il avait promis.
Il attendit patiemment que cet échange de vues sur la roulette eût pris fin, car il avait des préoccupations qu'il jugeait plus importantes.
« Monsieur Renaud, dites-moi bien votre façon de penser. Croyez-vous qu'il soit possible que ce jeune homme épouse jamais cette petite? Maintenant, la situation a changé. Il a des devoirs envers elle. Et si, comme vous dites, c'est un loyal garçon...
C'est indiscutablement un garçon loyal. Mais comme je vous l'ai dit déjà, vous ne vous doutez pas de ce que peut être sa famille. Ils sont séparés de vous par plusieurs siècles.
Je sais, dit Bernard, que ce sont de grands seigneurs, mais c'est justement pour cela qu'ils devront estimer que leur fils a des devoirs à remplir.
Oui, oui, dit Renaud. Tout cela est vrai théoriquement. Mais vous savez, les gens ont rarement les sentiments que l'on voudrait. Et puis, ils sont de grandes familles, c'est entendu. Mais sans vouloir les débiner, ils ne sont pas très, très intelligents. Ils obéissent plutôt à des préjugés qu'à des règles morales. Ou plutôt, si je puis dire, ils accommodent la morale à leurs préjugés. Ils sont très indulgents pour les équipées amoureuses de leurs fils. Ils ne veulent pas qu'elles aient des conséquences graves, et pour eux, la conséquence la plus grave serait une mésalliance.
Je vous dis les choses telles qu'elles sont, monsieur Lunéville. Je ne voudrais pas que vous vous fissiez trop d'illusions.
Je m'excuse de ce que je dois ajouter. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les parents de Georges. Eh bien, ils n'estiment pas, ces gens-là, que la responsabilité de cette aventure incombe à leur fils. Il a enlevé une jeune fille, c'est vrai, mais ils vous diront que cette jeune fille l'a suivie.
« Ils ne diront pas ça !» dit Bernard, irrité.
« Ils ne le vous diront pas, parce que vous n'aurez pas l'occasion de les voir.
Vous croyez que je me gênerais pour aller leur dire ma façon de penser ?»«
Croyez-moi, monsieur Lunéville, » dit sentencieusement Renaud. Si vous faites jamais cette démarche, que je désapprouve, faites-la le plus tard possible, et quand vous serez bien sûr que la chose ne peut pas s'arranger autrement. » À partir de ce moment, Bernard s'isola des deux autres convives au fond d'absorbantes réflexions, pendant que Renaud de Sérisier et Louise reprenaient leur conversation animée sur le jeu de la roulette. Quand ils eurent chacun prononcé un nombre à peu près égal de paroles de confiance et de paroles de doute, ils s'aperçurent qu'on était arrivé au café, au liqueur, et que le moment était venu de se rendre au casino. Bernard n'entra pas dans les salles. Il attendit dans le vestibule les deux joueurs. Il ne faisait que ressasser et ressasser dans son esprit les réflexions de Renaud. L'homme de lettres, sans doute, avait raison. Les choses sont toujours beaucoup moins simples qu'on ne croit. Bernard avait eu des procès dans sa vie et n'avait point manqué de remarquer que les deux parties, de bonne foi, s'imaginaient avoir raison. Il était évident pour lui que Georges devait réparer ses torts. Mais ceci n'était pas nécessairement admis d'avance par le comte et la comtesse. Donc, Bernard ne devait pas s'asseoir sur son fauteuil et attendre paisiblement le triomphe du bien et de l'équité. C'était une affaire dont il fallait s'occuper. La grosse et la seule affaire désormais de sa vie. Le bonheur de Claire était en jeu. Quand minuit approcha et que la fermeture des salles fut imminente, on vit parmi la foule sortir Louise en assez bon état. Elle s'était défendue, ayant même rattrapé une centaine de francs sur son déficit de l'après-midi.
Ce succès relatif était plus grave qu'une perte, car maintenant, sa certitude de faire une fortune à la roulette était plus ferme qu'auparavant. Mais c'était surtout le résultat obtenu par Renaud que Bernard attendait avec une petite inquiétude, car ses relations actuelles avec l'homme de lettres étaient telles, désormais, que la porte du coffre-fort, entrebâillée, ne se refermerait pas facilement. Ce soir-là, heureusement, Renaud était resté à peu près à jeu. C'était toujours, pour le généreux Lunéville, une séance de gagné. Ils partirent ensemble tous les trois. L'écrivain prit congé devant son hôtel. Il parlait d'aller mettre son smoking pour aller jouer au Sporting Club. Mais le sage Bernard le persuada d'aller se coucher. « N'oubliez pas que demain vous avez un petit voyage à faire. » Ils convinrent de se retrouver à Monte-Carlo le surlendemain pour déjeuner. Bernard avait hâte d'avoir des nouvelles de sa fille. « Cette fois, dit élégamment Renaud, c'est moi qui veux vous avoir à déjeuner. » Bernard savait bien quelle était l'origine de ses ressources, mais il eut la délicatesse d'accepter cette invitation. Chapitre 14. Georges et Claire, la veille, s'étaient fait conduire à Cannes. Georges connaissait, du côté de la Californie, un petit hôtel confortable où il serait tranquille. Les amoureux ne sont pas des gens que l'on peut suivre pas à pas. Comment saurait-on par où ils s'en vont et les impressions qu'ils ont de la route? Il fuit, possédé par une sorte de fièvre heureuse et ne regardant pas à droite et à gauche. Georges était avec Claire, Claire était avec Georges. Cela leur suffisait. Une muraille enchantée s'était levée autour d'eux et les séparait du reste du monde. Très vite, une transformation morale s'opéra chez la jeune fille. Il fallait, d'après la volonté de la nature, qu'elle fût conquise un jour. La nature, à l'être qui doit être conquis, donne une certaine faiblesse. Mais, aussitôt le destin accompli, chacun reprend son caractère. Si la femme est plus forte que l'homme, immédiatement le vainqueur subira sa domination. Il ne se sera emparé du pays conquis que pour y trouver un joug. Alors, la femme conquise devient véritablement la maîtresse, au sens absolu du mot. D'ailleurs, la seule conquête véritable est celle où le conquérant est ensuite soumis. On se lasse de dominer, on ne se lasse point d'être dominé. Une fois la formalité d'émancipation accomplie, Claire se révéla une tout autre personne. Toutes ses fortes qualités d'intelligence, héritage de Bernard Lunéville, se dégagèrent. Elle n'était plus bridée par la virginité. Cette domination de Claire, toute de tendresse encore, Georges en fit l'épreuve dès le lendemain de leur arrivée à Cannes. À la fin de la matinée, il voulut sortir pour aller envoyer une dépêche à l'adresse de Renaud. Il avait su, à son passage à Paris, que l'écrivain était à Monte-Carlo. On lui avait dit d'écrire ou de télégraphier à la poste et que le bureau ferait suivre la correspondance à l'hôtel que Renaud habiterait et qu'il n'avait pas encore choisi au moment de son départ. Quand Georges se prépara à sortir, Claire eut un « Vous me laissez ?» tellement prenant que le jeune homme vit clairement qu'à partir de cet instant, il ne ferait plus jamais un pas sans la permission de son ami. Il dut appeler un chasseur et écrire sa dépêche devant elle. D'ailleurs, elle ne demanda pas à la voir. Il tenait à rencontrer Renaud le plus tôt possible, pour des raisons matérielles. Le lendemain, à 10 heures, Renaud se présentait à l'hôtel. Claire avait bien dit qu'elle ne voulait pas le voir. Il était convenu que Renaud et Georges déjeuneraient ensemble au restaurant et qu'on la servirait, elle, dans sa chambre. Ce premier mouvement de pudeur timide fut suivi d'un vif désir, plus enfantin sans doute qu'impudique, de montrer son bonheur à Renaud. Quand Georges, après une conversation d'une heure avec l'écrivain, remonta dans sa chambre pour embrasser son ami, Si vous voulez, vous pouvez dire à votre ami de venir déjeuner avec nous.
Comment, cela ne vous gênera pas ?
Si, un peu, mais j'aime mieux être un peu gênée que séparée de vous.
Elle ne savait pas que Renaud avait vu son père, et le romancier, naturellement, ne lui parla pas du vieux Lunéville. La conversation fut aisée et superficielle. On racontait des histoires de la côte. La vieille sentimentalité de Renaud était charmée par ce gentil couple. Les deux jeunes gens, d'apparence très convenable, s'amusaient à des espiègleries, se pressaient les genoux sous la table, sans se départir d'un air grave et innocent. Le repas fini, quand on se leva, et que Renaud, pour faire sa digestion, se mit à marcher dans la chambre, Claire et Georges, chaque fois qu'ils tournaient le dos à l'un d'eux, esquissaient la moue d'un baiser. La présence d'un tiers variait ainsi leur douce affirmation d'être bien l'un à l'autre. Quand Renaud reprit son train, Claire à toute force voulut l'accompagner à la gare. On fit venir une auto fermée et l'on s'arrêta mystérieusement à 50 pas de la station. Claire tenait beaucoup à rester dans sa situation romanesque de jeune fille échappée.
Chapitre 15. Renaud n'avait rendez-vous que le lendemain avec Bernard Lunéville. Mais il ne fut pas trop étonné, en arrivant à son hôtel de Monte-Carlo, d'apercevoir le marchand de perles qui faisait les 100 pas devant la porte. Renaud ne put s'empêcher de sourire de ce manque de patience. Dès que Bernard aperçut Renaud, il courut à sa rencontre. « Je ne vous demande rien, » s'empressa-t-il de lui dire. « Même s'il n'avait pas été convenu entre nous que vous ne me direz rien, je vous jure que de moi-même, j'aurais eu la discrétion de ne rien vous demander. Dites-moi seulement que la petite est en bonne santé, et je vous jure que je vous laisserai tranquille. » « Eh bien, monsieur Lunéville, je ne puis vous dire que ceci. Ne vous mettez aucunement en peine au sujet de ses enfants. »«
Très bien, » dit Lunéville, « je suis heureux. » « Vous êtes gentil, monsieur Renaud. »
Il avait pris l'habitude, dans sa profession, d'être une idée trop aimable avec les personnes dont il attendait des services. D'ailleurs, ce petit excès d'amabilité échappe d'ordinaire à ceux qui sont l'objet de ses bons procédés. C'est surtout la galerie qui le remarque.
« Je ne vous demande plus rien. »
Puis au bout d'un instant, « pourtant, il me semble que, sans manquer à nos conventions, je pourrais vous demander une petite chose. Est-ce que ce jeune homme a besoin d'argent ? Je serais navré, très navré, s'il se sentait dans l'embarras. Comprenez-moi, c'est à cause de cette petite. Je veux bien admettre qu'il l'aime vraiment et qu'il la rend heureuse. Mais pour que ça dure, il ne faut pas qu'il ait trop de soucis. » Si un jour il est amené à regretter d'avoir une jeune personne à sa charge. Les idées de Renaud se précisaient sur Bernard. Il n'était pas encore arrivé à admettre que c'était une sorte de pas mauvais type, mais il en prenait insensiblement le chemin.
Et que voulez-vous faire à cela, monsieur Lunéville? Georges n'acceptera jamais que vous lui veniez en aide.
« Ce n'est pas moi qui lui viendrai en aide.
Ou plutôt si, ce sera moi. Mais il faudra s'arranger pour qu'il n'en sache rien. Dites-moi ce qui est, monsieur Renaud. Il n'est pas à son aise en ce moment ?»«
Pas précisément.
Qu'est-ce qu'il lui faudrait ?»«
Il m'a dit de lui trouver 20 000 francs. »«
Oui, » dit Lunéville. « Oui, eh bien on les trouvera. Vous pensez bien, monsieur Renaud, que je compte sur votre discrétion la plus absolue. »
J'entrevois ce que vous voulez dire, monsieur Lunéville, mais je ne saisis pas encore tout à fait. »
Vous lui remettrez 20 000 francs, monsieur Renaud, et pour ne pas changer ses habitudes, vous lui ferez signer un billet de 25 000. Comme ça, il acceptera cet argent. Je ferai le billet à un nom quelconque, une des personnes avec qui je suis en relation à Paris, ou bien simplement un nom que nous inventerons. Dans 6 mois, à l'échéance, on lui renouvellera son billet,
et même s'il est encore à court, comme il est probable, on lui fera une petite affaire nouvelle. » Quand le surlendemain, Renaud, après avoir porté les fonds à Georges, apporta le billet à Bernard, le marchand de diamants, qui avait eu ce beau geste, ne le compléta pas en déchirant ce billet. Il le serra même soigneusement dans son portefeuille. Il était capable désormais de générosités insolites, mais il pouvait difficilement se résoudre à déchirer un papier. C'était trop en dehors de ses habitudes. Chapitre 16. Bernard Lunéville et Louise étaient revenus à Paris, dans l'appartement de la rue Réaumur, qui leur semblait bien grand et bien désert. Bernard eût été très malheureux s'il n'avait pas eu l'idée constante de travailler à arranger les choses. Il avait oublié les angoisses qui avaient précédé l'enlèvement de sa fille. Il se rappelait mal qu'à ce moment, ce malheur lui avait semblé presque léger auprès du malheur plus grand qu'il avait redouté. Maintenant, le malheur récent subsistait à lui seul et s'accroissait à mesure que s'effaçaient les termes de comparaison. Sa fille avait un amant, elle vivait avec un jeune homme. Les préjugés du vieux marchand de diamants, réduits au silence par des circonstances tragiques, reprenaient maintenant toute leur force. Lunéville, désormais, n'avait plus d'inquiétude au sujet de la vie matérielle du jeune couple. Par l'entremise de Renaud, les jeunes gens étaient confortablement entretenus par des prêts soi-disant usuraires. La dépense était considérable pour Bernard, d'autant qu'il rendait également des services à Renaud, sans laisser à cet homme délicat la peine de les solliciter. Mais, en somme, tout ce que Bernard sacrifiait ainsi n'atteignait pas le chiffre de ses revenus. Renaud venait dîner chez Lunéville une ou deux fois par semaine, mais Bernard ne lui parlait pas de ses espoirs secrets. Il sentait l'écrivain trop buté. Il se disait obscurément, sans nettement formuler cette idée, que Renaud jugeait les différentes classes de la société en romanciers traditionnels, qui voient d'un côté la classe noble et de l'autre les petits bourgeois indignes. Bernard pensait, ou plutôt il espérait, que ces épaisses cloisons n'étaient pas imperforables. Il prit d'abord la résolution de se retirer des affaires. Soit qu'il eût désormais peu de cœur à l'ouvrage, soit que la situation générale ne fût pas fameuse à ce moment-là, il ne perdait pas grand-chose matériellement à ne plus être un commerçant de la rue Réaumur, et gagnait beaucoup socialement à devenir Monsieur Bernard Lunéville, rentier à Auteuil. Il passa donc la main à un jeune homme de ses relations, moyennant une somme de 200 000 francs et un intérêt assez fort dans les bénéfices de la maison renouvelée. La transaction fut assez vite négociée, car il y avait beaucoup d'amateurs pour cette vieille maison de commerce, chacun d'eux escomptant la reprise des affaires. Une heureuse chance permit à Bernard de saisir au vol une occasion d'appartement dans l'avenue Mozart. Il s'y installa avec Louise. Leur vie, au début, fut assez triste. Loin du quartier de la Bourse et de la rue du 4 septembre, ils se sentaient dépaysés. L'après-midi, Louise allait faire un petit poker avec quelques amis du centre. Bernard l'accompagnait en autobus et se rendait à l'hôtel des Ventes. Mais bientôt il se priva de ce passe-temps, qui le distrayait trop et le détournait de ce grand, de cet unique devoir, l'ouvrage de sa vie, la régularisation de l'union de Claire. Il s'entourait de tous les renseignements possibles sur la famille Bérin. Il n'osait pas trop en parler à Renaud. Il apprit cependant de lui qu'au mois de juillet, le comte irait faire une saison à Vittel, sans sa femme. Sans sa femme, c'était mieux. En compagnie de la comtesse, M. de Bérin eût été plus difficile à aborder. Il eût vécu sans doute dans un cercle plus fermé. Bernard annonça à Louise qu'on s'en allait à Vittel. Il écrivit à un des premiers hôtels de la station thermale et retint ce qu'il pouvait trouver de mieux comme appartement, deux chambres et un salon. Depuis quelque temps, il avait fait, grâce à Renaud, la connaissance d'un tailleur élégant et quitté délibérément le vieux Spitzman de la rue Montorgueil, qui pendant 30 ans lui avait donné l'illusion qu'il détenait les modèles et employait les coupeurs des plus chics maisons de Paris. Il changea également de chemisier et de bottier. Mais il continuait à prendre l'autobus et rarement des taxis. Avoir son auto à soi, c'était un trop haut échelon à franchir. Il savait que Claire et Georges étaient à Paris. Ils habitaient un hôtel des Champs-Élysées, mais personne ne les avait rencontrés. Ou, si on les avait vus, on ne l'avait pas dit à Bernard. Si les deux jeunes gens allaient au spectacle, c'était sans doute dans des baignoires. Lunéville, en tout cas, ne pouvait pas les y voir, car il n'allait plus au théâtre et refusait systématiquement les places que, comme autant jadis, lui offrait Renaud. Louise, héroïquement, les refusait aussi. Elle avait deviné, sans qu'il les lui communiquât, les appréhensions de son beau-frère. Leur seule distraction, quand ils sortaient le soir, était un cinéma d'Auteuil, où certainement le jeune couple ne venait jamais. Bernard savait par Renaud que Georges et Claire semblaient très heureux. Claire avait pris un grand empire sur le jeune homme. Mais ces bonnes assertions faisaient trembler Lunéville, car ce bonheur illégal lui semblait très précaire. Ils partirent pour Vittel le premier ou le deuxième jour de juillet. Louise n'avait pas suivi son beau-frère dans ses nouvelles habitudes d'élégance, mais sa mise était simple et convenable, et pour les personnes non averties, elle avait un aspect, ma foi, assez distingué. L'ex-marchand de diamants portait un veston de drap gris épais, rêche et sombre, un feutre d'une bonne maison, une épingle peut-être un peu forte à sa cravate et un diamant certainement trop large au doigt. Ils arrivèrent à l'hôtel à l'heure du dîner. Sans en avoir l'air, Bernard consulta le livre des voyageurs. Le nom qu'il cherchait ne s'y trouvait pas. Il interrogea le gérant, qui connaissait bien le comte de Bérin. Celui-ci venait à Vittel depuis plusieurs saisons, mais il descendait dans un autre palace. « Il a des amis qui sont ici, et vient de temps en temps déjeuner avec eux, mais je n'ai pas encore vu ce monsieur cette année. Si monsieur le désire, je puis demander de ses nouvelles à ses amis. « Non, non !» dit vivement Bernard. « C'est inutile !» Il se mit en smoking, et après le dîner, s'en fut s'inscrire et inscrire Louise au casino. Il resta dans la salle de jeu jusqu'au milieu de la soirée et ne vit pas monsieur de Bérin. Il rentra à l'hôtel, un peu fatigué par le voyage et par l'émotion. Il rapportait à Louise, ravie, le programme des représentations théâtrales du mois. Avant de quitter Paris, il était allé voir un docteur à qui il avait demandé s'il devait suivre un traitement. Du moment qu'il allait à Vittel, autant profiter de l'occasion. Le docteur le trouva en bon état, mais comme il paraissait tenir à se soigner, il ne fit aucune difficulté pour lui prescrire un petit traitement modéré. 2 verres le matin à jeun, 1 autre verre vers 5 heures du soir, une fois la digestion terminée. Bernard pensait « En somme, ce sera excellent de me laver les reins !» Comme beaucoup de personnes, il était bien impressionné par ces formules simplifiées. Le lendemain, il se rendit de bonne heure à la source et consulta la liste des arrivants qui se trouve affichée chaque jour dans la grande galerie couverte. Il n'y vit pas le nom du comte et en éprouva comme un soulagement, car même chez ce rude travailleur, habitué à l'effort, il y avait toujours un petit instant d'appréhension, de paresse inconsciente, au moment où la tâche allait commencer. Le comte n'était pas encore arrivé. C'était pour Bernard un peu de répit. Il n'y avait rien à faire à cela. Il fallait se résoudre à ses vacances. Il convia Louise à une petite promenade à Contrexéville pour profiter encore de cet après-midi où aucun devoir n'enchaînait sa liberté. Ce fut seulement 3 jours après leur arrivée. Comme Bernard, un peu découragé, n'avait pas encore ce jour-là consulté la liste, et comme il était tranquillement occupé à boire son verre d'eau, que le comte de Bérain, en personne, apparut au bout de la galerie, s'avançant aux côtés d'un petit vieillard en Panama. Bernard, qui avait vu le comte une fois à Paris, dans la rue, le devina plutôt qu'il ne le reconnut. Il passa auprès de lui et examina machinalement son costume. C'était un complet veston de couleur beige qui, en somme, ne lui sembla pas du tout extraordinaire. La voix de la prudence, qui pouvait être aussi la voix de la paresse, lui soufflait « Non, ne te presse pas, il est ici pour 3 semaines, et tu n'as pas besoin de brusquer les choses. Laisse venir, sans la provoquer trop vite, une bonne occasion de l'aborder et de lui parler. » La voix du devoir lui disait « Ne temporise pas ainsi, c'est de la lâcheté, le bonheur de ta fille est en jeu. Un instant de retard peut être fatal, et tu auras alors un remords éternel de ne pas avoir agi plus tôt. » Cette voix du devoir était-elle absolument sans mélange? Souvent, elle s'allie au désir maladif de précipiter la conclusion d'une affaire afin de se débarrasser d'un souci. C'est une paresse d'un autre genre. Mais nous ne reconnaissons pas la paresse dans les circonstances où elle nous incite à agir. Il attendit que le vieillard en Panama, qui prenait congé du comte, se fût éloigné. Mais à ce moment, le comte se dirigea vers la source et Lunéville se dit sagement qu'il ne fallait pas l'interrompre dans son traitement. Quand le père de Georges eut achevé de boire et qu'il eut rendu le gobelet de verre à la dame de la source, il alla s'asseoir dans le parc, non loin de la galerie, sur un grand fauteuil d'osier et tira un journal de sa poche. Lunéville jugea que le moment favorable était arrivé. Très carrément, il s'approcha du fauteuil, ôta son chapeau et dit « Monsieur le comte de Bérain ?» Le comte le dévisagea, toucha sa casquette et lui fit signe de se couvrir. « C'est moi, monsieur. Que désirez-vous ? » Lunéville prit un siège et l'approcha du fauteuil. Il préférait s'asseoir, n'étant pas très solide sur ses jambes, pour l'instant. D'autre part, bien qu'il fût habitué à la déférence, il n'aimait pas ce bonhomme d'affaires. La position d'un monsieur debout par rapport à un monsieur assis. Monsieur le comte, ma démarche va peut-être vous étonner. Je m'appelle Bernard Lunéville. Ce nom ne vous dit rien ? Le comte remua doucement la tête de droite à gauche. Il était au courant de la nouvelle existence de son fils, et il savait qu'il vivait avec une jeune fille qu'il avait enlevée. On avait même prononcé devant lui le nom de cette jeune fille, mais ce nom ne l'avait pas frappé, et d'ailleurs il n'avait pas beaucoup de mémoire. Bernard eût préféré qu'il se rappelât son nom. Ses explications en eussent été abrégées. « Je suis le père de la jeune fille que votre fils... » Le comte le regarda, un peu étonné. Puis une certaine hostilité immobilisa ses traits. Bernard était devant lui avec un visage sans expression. Il avait répété 10 fois ce qu'il dirait au comte. La première fois qu'il l'avait essayé sur lui-même, son discours lui avait semblé assez éloquent et vraiment irréfutable. Puis il avait aperçu toutes les réponses que pouvait lui opposer le comte. Un deuxième discours, qui lui avait semblé très bon, fut également abandonné la deuxième fois qu'il se le prononça. En fin de compte, il avait décidé de s'en remettre au hasard. Mais le hasard, cette fois-là, ne lui était pas d'un grand secours. « Je comprends maintenant, » lui dit le comte. « Je ne peux rien à cela. Mon fils n'est plus un gamin. Je n'ai sur lui qu'une influence très limitée.
Excusez-moi de vous avoir parlé de cela. Je sais que vous n'y pouvez rien. Mais comme je dois rester ici pour quelque temps, et qu'on aurait pu vous dire qui je suis, j'ai préféré vous le dire moi-même. »
Il sentait bien que ce qu'il disait là était parfaitement inutile et absurde. Mais il voulait à tout prix, pour le comte encore plus que pour lui, sortir de cette conversation gênante. Alors, il préférait dire n'importe quoi. Il se leva et jeta « Voilà !»
Le comte dit « Je vous répète que je regrette sincèrement tout cela, mais vous comprendrez que je n'y puis rien. »
« Je comprends. Au revoir, monsieur le comte. »«
Au revoir, monsieur, » dit le comte sans se lever, mais en s'inclinant d'une façon assez accentuée. Bernard s'éloigna. Quand il ne fut plus en vue du comte, il se mit à parler tout seul, nerveusement, d'une voix basse et sifflante. « Je suis un imbécile. J'ai tout gâté. S'il y avait eu un petit espoir, c'est fini maintenant. »
Il dit encore à voix plus haute « J'ai compromis le bonheur de mon enfant. »
Il arrivait très bien à prononcer ces phrases consacrées quand il était tout seul et qu'elles ne tombaient dans l'oreille de personne.
« J'ai été stupide, stupide, stupide !»
Il ne se doutait pas que les petites phrases informes qu'il avait dites au comte, c'était encore ce qu'il avait pu proférer de moins bête. Les gens qui écoutent mal sont plus émus, bien des fois, par des attitudes que par des mots. Bernard avait laissé son interlocuteur beaucoup plus troublé qu'il ne l'eût été par le plus beau, le plus habile discours. Mais ce que cette entrevue pourrait avoir de profitable pour le bonheur de Claire, c'est ce que personne ne savait encore, le comte moins encore que tout autre. Bernard s'en alla au hasard dans le pays, jusqu'à l'heure du déjeuner. Il n'était pas pressé de retrouver Louise et de lui raconter sa déconvenue. Il ressentait, mélangé à sa tristesse, la mortification d'amour-propre d'un homme réputé adroit et qui ne s'est pas montré à la hauteur de la situation. Sur le chemin de l'hôtel, il répétait machinalement ce qu'il allait dire à Louise. Malgré lui, il arrangeait les choses et diminuait sa responsabilité. Soudain, il s'aperçut que c'était de la faiblesse. Il dirait tout, tout ce qui s'était passé. Il raconta donc l'entrevue en exagérant plutôt sa maladresse. Il disait « Voilà, voilà, elle est tout gâtée !» Avec l'espérance que Louise lui démontrerait et lui affirmerait que ce n'était pas aussi irrémédiable. Ce fut en effet ce qu'elle lui dit. Mais qu'allait-il faire maintenant? Allait-il rester dans le pays, au risque d'impatienter le comte, qui serait certainement ennuyé de le trouver sur sa route? D'autre part, s'en aller, c'était abandonner la partie. Non, non, il voulait rester. Et il ne se montrerait pas trop, voilà tout. Pendant 2 jours, il eut une peur continuelle de rencontrer le comte. Il ne descendait plus à la source à l'heure où il pensait que M. de Bérin devait y aller. Il s'abstint de fréquenter le soir les salons de jeu. Or, un matin, vers 11 heures, il se trouva brusquement en présence du comte, dans une des allées du parc. Ce fut M. de Bérin qui, le premier, porta la main à sa casquette, ce qui lui valut un salut bien plus considérable de Bernard Lunéville. Le comte n'avait pas paru étonné, et Bernard en éprouva une joie enfantine. Le lendemain, il rencontra à nouveau M. de Bérin dans la galerie. Il avait plu subitement, et le comte, qui n'avait pas de parapluie, paraissait ennuyé d'être obligé de traverser le parc.
« Monsieur le comte, si vous voulez me permettre... »«
Oh, monsieur, non, je vais vous en priver !»
« Je suis à 2 pas de l'hôtel, je ne rentre pas tout de suite, et d'ici au déjeuner, il aura cessé de pleuvoir. »«
Alors je vous remercie, je vous le ferai renvoyer.
À quel hôtel êtes-vous descendu ?
Il nomma son hôtel. Le comte, avant de s'en aller avec le parapluie, tendit la main à l'obligeant Lunéville.
La rencontre suivante se produisit à l'hôtel même où habitait Bernard. Le comte était venu retrouver deux amis pour déjeuner, deux messieurs titrés, dont l'un était un colonel démissionnaire. Après le repas, un quatrième personnage arriva d'un hôtel voisin pour compléter un bridge qui s'installa dans le salon de l'hôtel. Louise avait été très émue pendant le déjeuner. De la table où elle était assise, en face de Bernard, elle apercevait à l'autre bout de la salle à manger, en profil perdu, Monsieur de Bérin. Après le repas, elle remonta à sa chambre. Bernard, lui, ne put s'empêcher de traverser le salon de lecture où jouaient les quatre messieurs. Le comte, qui venait de faire un chelem à 100 atouts, était en train de battre légèrement les cartes pour le coup suivant. Il se trouvait donc à un de ces petits entr'actes de la partie où les joueurs de bridge sont capables d'une certaine sociabilité. « Vous ne pratiquez pas ce jeu-là, monsieur Lunéville ?» Tout ému de se sentir appelé par son nom, Bernard balbutia quelques paroles. « C'est-à-dire que je joue un peu, très mal. » Mais il n'eut pas besoin de se remettre d'aplomb, car le coup était parti. L'équipe de bridge avait refermé sa carapace et Monsieur Lunéville se trouvait rejeté au reste du monde. Quand le comte avait appelé Bernard, le colonel, qui était le partenaire de Bérin et venait de bénéficier lui aussi du chelem, avait regardé le nouveau venu avec un sourire amical qui fut fidèlement enregistré par Lunéville. Aussi, le soir du même jour, avant le dîner, comme Bernard, dans le vestibule de l'hôtel, consultait la cote de la bourse, le colonel étant venu l'examiner derrière lui, le marchand de diamants s'effaça et se crut autorisé à entamer la conversation. « C'est bien agité en ce moment, et on ne voit pas trop quelle tournure ça va prendre. »
« Je regardais les aciéries de Mortain, » dit le colonel.
« Oh, ce n'est pas que ça m'intéresse beaucoup !» C'est surtout Bérin qui nous rase avec ça.
Le comte de Bérin a des positions à la bourse ? Demanda Bernard d'une façon détachée, en s'efforçant de mettre dans cette question le moins possible de curiosité indiscrète.
Oh, pas grand-chose, dit le colonel.
C'est la première fois de sa vie qu'il achète des valeurs industrielles. Il faut vous dire que c'est un de nos copains de régiment qui a entrepris cette affaire-là.
Alors, il nous en a fait prendre à chacun un petit paquet, comme ils disent. Le comte, qui est plus calé que moi, en a naturellement davantage.
Bernard, en s'en allant dîner, était songeur et satisfait d'entrevoir, pour ces gens-là et pour lui, un sujet de conversation. Il apercevait aussi quelque chose d'autre à combiner, mais c'était encore vague. Le soir, il se rendit au casino et se promena dans le hall, cependant que Louise, en grand tralala, allait écouter le barbier de Séville. Chapitre 17. Bernard se tenait à proximité d'un panneau où on affichait les dépêches de Paris, le résultat des courses et les cours du soir. Il pensait que le comte viendrait à cet endroit. L'hôtel de Bernard était le seul qui recevait les dépêches à Vasse, et les pensionnaires des autres hôtels venaient consulter ces dépêches au casino. Quand il vit arriver M. de Bérin à l'entrée du hall, il s'approcha du mur des télégrammes et parut absorbé dans l'examen des cours. Il pensait que le comte l'interpellerait, et son attente ne fut pas déçue. « Vous vous livrez aussi à ce petit exercice-là, monsieur Lunéville ?»«
De temps en temps, monsieur le comte. Oh, modérément. Je m'y intéresse un peu depuis que je ne suis plus dans les affaires. »
Il n'était pas fâché d'indiquer cela en passant.
« Depuis que je ne suis plus dans les affaires, comme j'ai gardé à la bourse quelques relations, elles me font profiter de temps en temps d'un petit coup intéressant. » C'est bien aventureux, dit le comte.
Oh, moi, je ne joue pas tout à fait au hasard, dit gravement Lunéville.
Je n'ai jamais été ce qui s'appelle un vrai joueur. Seulement, n'est-ce pas, nous sommes un certain nombre d'amis à la bourse, bien placés, au courant des nouvelles affaires qui se forment. On me demande de temps en temps ma souscription pour un syndicat de garantie. Je souscris une cinquantaine d'actions, pas plus, parce que nous ne voulons pas être trop gourmands. Quelquefois, j'en souscris 50 autres pour un ami, mais il est convenu, entre nous, que notre part personnelle ne sera jamais supérieure à 50. Alors, on nous donne ces actions à un très bon cours d'émission. Je ne garde pas les titres éternellement. Vous comprenez, on peut toujours prévoir qu'une affaire aura des débuts heureux quand elle est bien lancée, mais on n'est jamais certain que ça durera longtemps. Alors, aussitôt que les titres sont cotés en bourse, à un cours sensiblement supérieur à mon cours de souscription, je réalise, sans trop me presser, en me contentant d'un bénéfice de 10 à 20 billets. Mais jouer à la bourse, non, non, je suis un peu trop vieux pour ça. Cette conversation paraissait intéresser le comte. Il s'était appuyé contre le mur, comme un homme qui n'est pas disposé à s'en aller tout de suite. « Ces jours-ci, justement, dit Bernard, on m'a demandé de m'intéresser à une affaire nouvelle. Le fait de donner mon nom me rapportera d'ici à 3 jours, peut-être d'ici à demain, 4 ou 5 000 francs. « Matin, fit le comte, on peut dire que vous avez des relations utiles.
« Si le cœur vous en dit, monsieur le comte. »«
Oh non, je vous remercie, » dit le comte sans énergie. « C'est-à-dire, il faudrait donner mon nom. »
« Rien de tout ça, monsieur le comte. Les gens qui forment ce syndicat sont honorablement connus, c'est entendu, mais ce sont des spécialistes des affaires. Je ne vous conseillerai jamais, à vous qui ne vous êtes pas occupé de cela, de donner votre nom pour une petite entreprise de ce genre. Quand on a pris ce parti-là, de se mêler au monde des affaires et d'apporter son nom et son crédit à une société nouvelle, il faut au moins que ça en vaille la peine. Non, je vous répète que si le cœur vous en dit, eh bien, au lieu de souscrire pour les 50 titres dont j'avais parlé, je demanderai qu'on m'inscrive pour 100 actions. En indiquant que la moitié sera réservée à quelqu'un de ma connaissance. Je vous ai dit que nous avions pris l'engagement moral, et tous les amis de notre groupe le tiendront toujours, de ne pas prendre plus de 50 titres par barbe. La personne que j'inviterai à prendre 50 titres ne figurera en aucune façon sur la liste. J'ajoute qu'elle ne courra aucun risque et que je ne prononcerai même pas son nom. « Et vous êtes sûr, monsieur Lunéville, que c'est une affaire sérieuse ?»«
Faites-moi l'honneur de croire, monsieur le comte, qu'autrement je n'aurais pas songé à m'en mêler une minute. Dites-vous bien ceci, qu'à l'heure où nous vivons, il y a tellement d'affaires de tout acabit qui se font concurrence que même les affaires sérieuses ont besoin de ces procédés de lancement. Ce que je vous demande seulement, monsieur le comte, si vous vous décidez, c'est de n'en pas parler autour de nous, car je puis faire signe à une personne, mais je ne pourrai guère en inviter deux.
Monsieur Lunéville, vous m'inspirez confiance.
J'ai peut-être tort, dit-il en riant.
Je ne crois pas, monsieur le comte, je ne crois pas.
Mais ça m'ennuie un peu de faire cette affaire-là sans en parler au colonel. « Je voudrais bien, si l'affaire est bonne, l'en faire profiter. »«
Eh bien, passez-lui quelques-uns de vos titres, 10 ou 15 sur les 50 que vous souscrirez. »
Au fond, Bernard, en intéressant le colonel à l'affaire, n'était pas fâché de s'assurer un allié sérieux dans l'entourage du comte. Il pensait que M. de Bérin en parlerait le soir même à son ami, et qu'ainsi il ne reviendrait plus sur son acquiescement. Car il avait accepté bien vite, et sans réfléchir, l'aimable proposition. Évidemment, s'il eût hésité, s'il eût pris le temps de se dire « Ne commençons rien avec le père de cette jeune fille !» L'affaire était manquée. Bernard se cognait à un refus définitif. N'avait-il pas eu tort de se démasquer dès l'abord et de se présenter au comte comme le père de Mademoiselle Lunéville? À ce moment, il cherchait à connaître le père de Georges, sans plus, et n'avait pas encore combiné le plan de campagne. De plus, ne pas se démasquer, c'eût été risqué lourd. Le jour où le hasard eût révélé au comte quel lien unissait Bernard et Claire, c'était la méfiance subite et irrémédiable. Le terrible « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez ?» Cette affaire de quelques billets, pensait encore Bernard, ce n'était pas assez gros pour être compromettant. Ça ne changeait pas la situation de fortune du comte de Bérain. Mais c'était tout de même assez important pour lui faire plaisir. Il se dirait « Mon séjour à Vittel ne m'a rien coûté ». Ce sont des satisfactions qui comptent pour un homme riche.